généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide.
Putain, mais de quoi il parle ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joint ressemble à un cafard. Que de merde.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes bien avec nous en direct de 21h à 22h sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle radio, avec l'émission du Cirque Lyon, Cannabis Circus, de Cirque Lyon, que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07.
Ouais, ça c'est dit au moins.
Ouais, bah, on va le dire tout de suite. Hein. Et par mail aussi, cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez nous écrire également par voie postale, c'est encore possible, même si le numérique a remplacé beaucoup de choses, mais bon, on a encore une boîte postale physique avec des lettres qui arrivent dedans et tout. Si, si. Donc c'est Cirque Lyon, BP 93 043, 69 605, Villeurbanne, Cedex. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, et pas mal d'entre vous prennent contact avec nous, notamment par téléphone. J'en ai déjà un petit peu parlé la semaine dernière, alors je le redis encore. Il y a pas mal de personnes qui ont des petits soucis avec la maréchaussée ces derniers temps, qui se font attraper, alors souvent au volant en fait, suite à un test salivaire, qui sont dépistés positifs au cannabis et qui donc nous contactent un peu paniqués, savoir ce qu'il faut faire, est-ce que c'est bien de prendre un avocat ou pas. Donc, pourquoi pas, hein, on est là pour ça. Après, on donne un peu des petits conseils aux gens, on oriente, mais on n'a jamais de feedback, ou très rarement. Les gens ne nous répondent pas, ou peu. Et ben, du coup, c'est difficile pour nous de mieux conseiller ou d'aider les gens, hein, tout simplement. Donc, voilà, on peut vous aider, on peut vous orienter du mieux qu'on peut. Hein, on n'est pas très nombreux non plus, mais bon. Voilà. Donc, si on n'a pas de retour suite au mail de réponse qu'on vous envoie, c'est un peu dommage, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà.
D'ailleurs, bah, j'en me permets pour aller dans la revue de presse,
hein, propos,
pour faire un petit peu. Voilà, tout à fait, puisqu'il y a des utilisateurs en prison, donc on va prendre les exemples de Gugus. Hein. Donc, dans les petits journaux locaux, on a ça.
Deux Français.
Eric, le cas de
Gugus français.
Kevin, c'est ça, et Eric, voilà. Bon, après, sinon, on ira voir. On a peut-être trouvé un nouvel APAP. C'est-à-dire un nouveau procureur qui est de Grenoble qui se dit pour la légalisation contrôlée, ou pour la légalisation en tout cas.
Ah, il avait déjà fait parler de lui l'année dernière, ce Jean-Yves Coquillat. Là.
Voilà, tout à fait. Il en remet une couche, il arrive bientôt à la retraite.
Il n'y a plus rien à perdre.
Et tout à fait. Donc c'est notre nouvel APAP, comme on peut dire, hein, puisque lui, c'était il y a 20 ans de ça, c'était l'ancien procureur de Montpellier. Si je ne me trompe pas. APAP,
oh, je
pas procureur,
plus,
il me semble bien.
Si, hein. Si, mais je ne me rappelle plus d'où.
De la région de Montpellier, il me semble.
D'accord. Hein,
en tout cas, voilà. Sinon, on va reparler de Bertrand Dotzenberg, qui dit 5 choses sur le cannabis qui sont assez intéressantes. On va revenir là-dessus. Après, on reviendra sur la mythe et une grande étude qu'ils ont faite sur 1001 personnes. Attention, attention, ils remettent tout en cause grâce à ça. Hein. Et en tout cas, pour eux, il n'y a que 4% des 18-25 ans qui fument. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait le chiffre de l'OFDT, on reviendra là-dessus, entre autres. Et surtout, elle dit une seule chose, comment elle s'appelle, la présidente de la MILT.
Daniel Jourdain-Méninger.
Voilà, tout à fait, elle me donne la méningite, là, elle-même, bref. En tout cas, tout le monde penserait que tout le monde fume. Est-ce vrai, est-ce faux, voilà, en tout cas, il ne faut pas le laisser penser, hein, dit-elle, voilà. Est-ce que tout le monde pense que tout le monde fume? Alors, en tout cas, est-ce qu'on parle de quotidiennement ou pas, etc., etc., etc. On reviendra sur les chiffres tout à l'heure. Donc là, on arrivera sans doute vers la fin de l'émission.
Attends, j'espère pas quand même. Peut-être se dépêcher cette fois.
Voilà, moi, bon, toujours avec la suite, il y a aussi ce truc sur est-ce que les Français sous-estiment la nocivité du cannabis. Attention, attention. Donc,
sur le cerveau des jeunes.
Sur le cerveau des jeunes. Oui, oui. Moi, c'est justement, c'est toutes les confusions qu'on voit dans les textes. Alors, oui, ils arrivent à pas dire que des bêtises, mais ils arrivent à tellement transformer la.
Alors, c'est dans 20 minutes, hein, je précise.
Oui,
c'est
oui, dans 20 minutes.
Ça sort pas de ta tête.
Mais c'est le Figaro là-haut qui disait des conneries. Mais on reviendra sur tous ces articles-là. Après, on ira sans doute faire un tour en Suisse, où là, c'est une consommation régulée qui se précise en Suisse.
Quelques villes de Suisse.
Dans quelques villes de Suisse, mais c'est déjà pas mal.
Ouais, hein. C'est super.
Et dans le temps, on parle toujours de Suisse, et même sur ordonnance, il y en aurait pour les jeunes.
Alors, letemps.ch, un journal suisse également.
Tout à fait. Et puis, ben, on finira, ou si on finira pas, en tout cas, ça fera le pendant avec cette revue de presse. C'est aux USA, il y a pas mal de gens qui se réveillent. Parce qu'il y a un petit dealer qui a pris 55 ans de prison.
Voilà, et il y a un procureur qui semble culpabiliser avec ça, visiblement.
D'accord, voilà. Donc
C'est un magistrat, en fait, hein, qui s'exprime à ce niveau-là et qui avait lui-même fait condamner cette personne. Et maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est bien raisonnable de condamner un petit dealer de cannabis selon des peines planchers cumulables, hein, parce qu'aux États-Unis ça marche comme ça, à 55 ans de prison. Voilà. Et on verra peut-être vite fait aussi un tout petit peu ce qui se passe quand même aux États-Unis avec un Bernie Sanders qui est le candidat de la jeunesse malgré ses 74 ans et qui en tout cas est plus jeune que Hillary Clinton qui est déjà pas toute neuve. Mais
si on n'y ferait pas aujourd'hui, on le fera une autre fois parce que la campagne américaine va durer encore quelques mois, donc on y arrivera. Et c'est vrai qu'on parlera sans doute pas non plus du Parlement australien qui s'engage à légaliser la culture du cannabis médical.
Mais voilà, il suffisait de le dire et donc c'est fait.
Voilà, et comme ça, c'est pas mal. Voilà, ça c'est le sommaire de cette émission. On verra bien jusqu'où on va, mais...
Après, la musique. Allez, musique, à tout de suite.
Et on commence avec un disque qui est sorti il y a quelques semaines. Il s'agit de Sheikh Anorak. Ben, ce garçon, il est tout seul. Et en concert, il arrive à jouer de la guitare, de la batterie et chanter tout ça en même temps. On écoute un extrait, ça s'appelle « Speaking Voice ». We'll be right back.
Gracias.
Ouais, retour à l'actu, vous êtes toujours avec nous dans l'émission Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon, comme tous les lundis soirs depuis 23 ans, sur ce créneau horaire 21h, 22h, Cannabis Circus. Et donc, actu, fait divers un peu, mais...
Fait divers, des petites brèves des consommateurs, hein, les 5 consommateurs, un Châtel Rodet de 50 ans.
Quoi ? C'est pas un jeune ?
Non, c'est pas un jeune. Tiens, c'est pas un jeune, c'est dans la Nouvelle République.
Je crois que c'était que les jeunes qui fumaient du cannabis.
C'est
un jeune de 50 ans, en fait. C'est ça.
Ouais, c'est la Nouvelle République qui nous parle de ça. C'était le 13 février. Donc voilà, il a été arrêté. Quoi, il est connu pour plein d'affaires de culture de cannabis à domicile. Et il y a des policiers qui l'ont contrôlé en début d'après-midi, et mercredi, et il était positif, donc il repasse en comparution immédiate, et il répète ce qu'il a déjà dit, je souffre d'une arthrose aiguë, d'une arthrite aiguë, et le cannabis ça m'aide, mais...
Comme il a déjà été condamné pour ça, et ben la justice lui fait pas de cadeau, et... Alors, il avait déjà bénéficié d'un placement sous bracelet électronique précédemment. Mais, comme il est connu, récidiviste consommant du cannabis, cette fois-ci, le procureur le condamne et l'envoie en détention. Voilà, donc, encore une fois, ça confirme tout ce qu'on dit encore hein, depuis des années et des années. C'est-à-dire que... fumer du cannabis, ça peut vous envoyer en prison. Voilà. Et il y a plein de gens en France qui fument du cannabis, qui n'ont pas l'intention de s'amender, de se repentir ou de quoi que ce soit. Et pour eux, la contraventionnalisation de l'usage, tous ces trucs-là, ça ne s'applique pas à ces personnes. Hein.
Voilà. Mais là, on n'est pas la contraventionnalisation d'usage, comme tu dis.
Ah bah non.
Qu'aux primo-délinquants.
Exactement.
Et donc là, dans les deux cas.
Et, voilà, et t'en connais beaucoup des primo-délinquants d'usage de cannabis, toi ?
C'est les jeunes qui se font arrêter pour la première fois.
Hein, ah, mais nous, à l'âge qu'on a, on ne connaît plus de jeunes. Nous. Donc, on est des jeunes de notre âge.
Voilà, après, et qui c'est qui contrôle principalement ? C'est les jeunes.
Uniquement, même, ouais. Ouais, sauf lui là, qui est bien connu et du coup il se...
On verra bien le jour où je me ferai contrôler au cannabis quoi,
volant.
Ce que je veux... Déjà je me fais plus arrêter depuis 20 ans maintenant.
Oui mais parce qu'on vit
avant je me faisais arrêter souvent mais voilà.
On vit dans une grande ville. T'as pas la tête de l'emploi entre guillemets parce qu'il faut reconnaître que c'est du contrôle au faciès. Lui il habite dans un coin un peu plus rural. Il est connu des services de police et de gendarmerie. Il est connu pour donc forcément c'est une cible facile. Pour la police et la justice. Et c'est dégueulasse, faut le dire, c'est dégueulasse. Voilà. C'est ce qui se passe en France tout le temps, tous les jours, pour des tas de fumeurs. Voilà. Finalement, la prison, c'est toujours leur place aux consommateurs de cannabis. Donc, ça craint. Alors, un peu plus loin, ailleurs, dans la Marne, vers Chalon-sur-Marne, c'est l'Union.fr, un autre journal. Là, c'est un autre consommateur, Kevin Dumain. Qui s'appelle, et pareil, il est aussi considéré comme un multi-récidiviste. Et donc, lui, voilà.
Lui, c'est un jeune de Vitry, hein, qui a 25 ans.
Alors lui, il a 25 ans, ouais.
Voilà, donc.
Et lui, alors, il dit qu'il consomme à peu près 25 grammes par mois. Et les gendarmes l'ont arrêté à Vitry. Les gendarmes de Vitry-le-François l'ont arrêté avec cette quantité-là sur lui. C'était le 10 janvier dernier. Alors, ils ont été attirés par l'odeur de l'alcool et du cannabis qui émanait de ce jeune Vitria de 25 ans. Et le jeune homme a sorti son morceau de cannabis de son caleçon, tout en reconnaissant en avoir encore un plus gros morceau à son domicile. Donc, la police est allée chez lui. Ils y ont trouvé une barrette de 19,1 grammes, un pot rempli de tiges de cannabis et un grinder. Donc le jeune homme de 25 ans, je cite hein, l'article, dont le casier judiciaire fait état de nombreuses mentions relatives au cannabis, a donc été condamné par le tribunal de Chalon en Champagne en comparution immédiate à une peine de 6 mois de prison, dont 3 avec sursis, ainsi qu'à la révocation d'un précédent sursis de 2 mois. Donc il va forcément aller
donc, il est parti
faire
en
un
ferme.
Tour en prison. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on veut vous parler un peu de ces petites nouvelles-là, parce que voilà, encore une fois, pour faire taire un peu tous ceux qui disent qu'on met plus de gens qui fument du cannabis en prison. Alors déjà, on continue à mettre des primo-délinquants qui sont concernés par du cannabis en prison, ça arrive. Et ceux qui ne sont pas primo-délinquants pris avec du cannabis, voire récidivistes, ben eux, c'est clair qu'ils y vont aussi. Voilà, donc il faut changer cette loi. Cette loi qui incrimine beaucoup de gens en France. Savoir qu'en France, il y a à peu près entre 500 et 800, voire 1000 personnes qui sont condamnées à du ferme pour du cannabis. Donc ça fait beaucoup de monde en fait. Et il y a, encore une fois, on rappelle hein, que le cannabis, c'est un tiers du contentieux juridique national dans les tribunaux français.
Voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que rappelle le procureur de Grenoble. Grenoble hein. Il a pas moins de 60 000 procédures en 2015, uniquement sur le cannabis. Donc ça lui fait beaucoup, il trouve. Et donc, depuis 2011, il refuse la langue de bois. Hein. Il dit que la... Voilà, bon, c'est pas... Il refuse la langue de bois. Et il va un petit peu contre les idées reçues, sans aller jusqu'à la légalisation, malheureusement. Mais ouais, on va revenir dessus. Alors bon, il compare à Grenoble, à une grande ville normale. Et donc, ils ont une délinquance au niveau des stupéfiants, de la même sorte que celle de Marseille, ou de Lyon, ou de Paris. Voilà, donc... Et voilà ce qu'il dit, c'est qu'il a l'impression de se battre contre un système et de vider l'océan avec une cuillère. Il se bat contre ce système d'économie parallèle hein, qui est infernal et donc ils disent ça fait 38 ans qu'il fait ce métier et ça marche pas. Je dis pas qu'il faut légaliser, mais posons-nous la question, réfléchissons un peu parce que pour l'instant ça marche pas. Il faut regarder un peu ce qui se passe dans les pays voisins, donc c'est, voilà, c'est assez intéressant et c'est intéressant, que, quoi, et c'est surtout bien que ça vienne d'un procureur.
Et comme tu disais, oui.
Donc ça serait bien qu'il aille jusqu'à pour la légalisation. En tout cas, ce serait bien s'il était pour l'abolition de l'air-clic. Déjà, 34-21-4 qui interdit d'en parler positivement. Mais voilà.
Donc, oui, ça, pour reprendre un peu ce que tu disais au début de l'émission, c'est intéressant quand des magistrats ou des procureurs ont ce genre d'opinion parce que c'est pas souvent. Et le premier, ça avait effectivement été Georges Appape, hein, qui était un procureur dans les années 80, qui s'était prononcé pour un changement de législation sur le cannabis et sur les drogues, même en général. Hein. Donc voilà, bon, pour les petits faits divers.
Voilà, ouais, c'est plus qu'un petit fait divers quand même. Puis il rajoute que là-bas, à Grenoble, il y a de plus en plus d'armes. En tout cas, il y a pas mal de couteaux.
Tant ouais, que c'est pas des Kalachnikov.
Ouais, mais ça n'empêche pas que ça tue aussi. Hein,
les couteaux
Même les coups, si on se souvient bien, il y a 2-3 ans. Il y a eu quelques petites choses qui se sont passées sur Grenoble. Allez, on passe au sujet suivant.
Il y a un intrus à la technique qui s'est infiltré. Ces chasseurs de sons.
Voilà, après.
Qui a chassé un son in extremis.
Après ce procureur, parlons un petit peu des pneumologues, de Bertrand Dotzenberg, on en a déjà parlé la semaine dernière.
Encore lui ?
Ouais, encore lui, mais il dit des choses bien, mais ça fait plaisir d'entendre ça quand même.
Voilà, alors c'est dans metronews.fr, c'est 5 idées reçues sur le cannabis, commentées par ce pneumologue qui fait couler beaucoup d'encre en France depuis un mois, donc Bertrand Dotzenberg. Et pourquoi il fait couler autant d'encre dans les médias ? Parce qu'il a dit que...
Qu'il souhaite la dépénalisation du cannabis voilà. Pour que sa consommation diminue, hein, ce qui est tout à fait exact. Donc, il rappelle, malgré la législation particulièrement répressive, la France est championne d'Europe en matière de consommation de cannabis.
Alors, lui, il dit dépénalisation, mais si on le suit un peu plus dans son propos, en fait, il parle plutôt de légalisation. Quoi.
Tout à fait.
Mais bon.
Alors, le cannabis rend-il aussi dépendant que la nicotine ? A priori, faux.
Alors, c'est lui qui dit, hein. C'est pas nous, hein, oui. Ni le journal. Hein. C'est lui qui répond à ces questions.
Voilà. Et après, il répond assez clairement, hein, fumer un joint, c'est souvent un mélange
de cannabis et de tabac.
Voilà, mélange cannabis-tabac. Donc, forcément, il y a la cigarette qui est aussi dangereuse pour la santé qu'avec une cigarette normale. Le cannabis, ça affecte le service nerveux
du
consommateur, notamment au niveau de la mémoire et de la concentration. La cigarette, elle endommage les poumons. Donc, ça ne se situe pas au même endroit. En tout cas, le THC contenu dans le cannabis rend beaucoup moins dépendant que la nicotine du tabac. Mais bon, donc, conséquence, un usager de cannabis aura plus de facilité à arrêter s'il le fume pur. Et par contre, l'effet pervers, c'est que dans tous les cas, il y a du tabac qui est dans le joint.
Et que si vous voulez vous sevrer du tabac, que vous en consommez des cigarettes avec du cannabis, mais du tabac... ça va pas vous aider à quitter la dépendance au tabac, c'est sûr.
Oui, et ça peut faire rechuter.
Et ceux qui sont pas fumeurs de tabac à la base et qui fument des cigarettes, des joints avec donc du cannabis et du tabac, mais qui à la base sont pas des fumeurs de tabac, on risque de devenir dépendant au tabac.
Ouais.
Voilà, donc l'herbe ou la résine, du pareil au même, point d'interrogation.
Voilà, c'est la deuxième question. Faux, le cannabis. Donc d'abord, ça peut se consommer de plein de formes différentes, d'herbes, de résine ou d'huile. Et plus exceptionnellement, ça peut être aussi mangé. En général, c'est fumé, mais ça se mange aussi. Bon, le mode préféré, c'est le joint. Hashish avec de la résine et du tabac. C'est aussi pour lui le plus dangereux pour l'organisme. Cette résine peut en effet être coupée avec des substances plus ou moins toxiques. C'est pour ça que la légalisation, ça serait bien, on pourrait savoir ce qu'on fume. Mais bon, ça, c'est pas. Il le dit pas, mais il le pense sans doute. Le pneumologue suggère de privilégier les feuilles de cannabis qui peuvent être fumées sans tabac ou même vaporisées. Donc c'est assez court, hein. Je pense qu'il pourrait développer.
Hein. Ouais, disons que ça a déjà été plus développé dans pas mal d'articles depuis qu'il a parlé de tout ça, donc on en a déjà parlé aussi.
Il rappelle juste après la vaporisation est moins dangereuse pour la santé.
Alors c'est vrai, hein, pour le coup.
Tout à fait, ça préserve les poumons, contrairement aux autres méthodes. Le cannabis vaporisé ne dégage pas de particules toxiques comme le goudron et épargne le système respiratoire. Voilà, il n'y a pas d'effets connus à ce jour. Le cannabis cause des cancers du poumon. Donc, il dit vrai et faux. Sur lui-même, ça a peu d'effet sur le système respiratoire, le THC, hein, en lui-même. Surtout s'il est pris de façon vaporisée, si vous avez bien entendu tout ce que l'on vient de dire. Le risque, il existe surtout parce qu'on le mélange à d'autres produits, en particulier avec du tabac.
Riche en particules fines et en substances cancérogènes.
Tout à fait. Et donc, en particulier le goudron, qui est une particule qui est très très lourde, visqueuse. Ben vous avez tous la tête du goudron qui en prend sur nos routes. Hein. Voilà, donc la fumée du papier et de la nicotine est aussi toxique et l'on peut faire des infections respiratoires avec tout ça, en particulier cancer du poumon. Comme les fumeurs classiques. Voilà, donc par contre, comme il y a très peu de fumeurs de cannabis pur, on ne connaît pas les effets réels et ils sont beaucoup plus compliqués à déterminer.
Voilà, sur le poumon, hein, toujours.
Voilà. Enfin, dernière question, légaliser pousserait les jeunes à consommer davantage. Donc, lui, il répond faux. Il suffit de regarder les dernières études de l'OFDT. Et il voit que 47,8% des jeunes de 17 ans ont consommé du cannabis contre 41,5% en 2011. Donc, aux Pays-Bas, par exemple, en revanche, où il y a une tolérance pour les adultes, et ben, elle est deux ou trois fois moins importante qu'en France. Donc lui, il veut qu'on fasse pour le cannabis comme ce qu'on a fait pour l'alcool et le tabac, c'est-à-dire une loi E20, une légalisation contrôlée pour interdire dans certaines conditions, mais pas partout, ni pour tout le monde.
Donc il faudrait une loi E20 et cannabis. Voilà. Bon allez, petite coupure pub musicale.
Après ce bon jeu de mots, tu nous fais un lapsus.
Coupure musicale.
Sur Radio Canu, quoi.
Non, c'est interdit la pub ici, il n'y en a pas. Donc musique, allez, à tout de suite.
Et on écoute un extrait d'un quatuor new-yorkais qui s'appelle Big Ups. Et vu que j'arrivais pas à choisir entre deux titres, et ben, on va en écouter un. Et puis s'il y a du temps, on écoutera un autre tout à l'heure.
retour à l'actu, donc vous êtes toujours avec nous en direct sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, avec l'émission Cannabis Circus. Je me retrouve tout seul, mon collègue s'est sauvé en courant, je sais pas où. On va continuer quand même sans lui, hein. Bon, il va revenir. Alors voilà, on va maintenant s'intéresser à ces articles concernant les jeunes qui fument beaucoup moins ce qu'on pense, ou la carte de France des consommateurs de cannabis. Enfin bon, voilà, tout ouais, ça.
La même chose d'ailleurs.
Ouais, bien sûr. Et puis, il y avait aussi un article dans 20 minutes, les Français sous-estiment la nocivité du cannabis sur le cerveau des jeunes. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça.
Voilà, puis en plus, il y a des psychiatres derrière, donc ça va. Suite de 20 minutes, il est gratiné aussi.
Alors, je nous ai épargné cette semaine un article de Jean Constantin, qui était sur un journal sur Internet avec des horreurs, des trucs hallucinants que nous racontait Constantin, comme il en a seul le secret. Donc je me suis dit quand même que l'article du Figaro et de Sud-Ouest là, et de Métro, ça allait suffire, quoi.
Ouais, mais en plus, ils y sont pour rien, eux. Hein, ils reprennent l'étude de la MIDECA.
La MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, ils ont fait une grande enquête sur un panel super important. 1001 personnes.
Oui, c'est-à-dire en fait pas grand monde. Hein. Je veux dire, enfin, c'est pas mal, mais
c'est représentatif. Hein, c'est la méthode des quotas.
Oui, c'est représentatif. Oui, oui. Si.
C'est ce qu'ils prennent souvent. Hein. C'est vrai que c'est.
Bah non, mais c'est. Mais disons que par rapport aux études, aux enquêtes ESPAD et ESCAPAD.
En plus,
c'est pas grand chose, quoi. Enfin bon.
Alors, si j'ai bien compris, c'est une auto. C'est auto-évalué. Bon, alors c'est juste pour dire que. Voilà, surtout que je vais le comparer tout à l'heure après avec une autre étude qui est faite. Qui est diffusée par l'OFDT, hein, c'est l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie, qui après, il y a l'OEDT qui compile tous les trucs de tous les pays. Donc ça permet d'avoir une vision globale, permet de mieux en parler. Et eux, ils ont juste. Ils savent pas, ils n'ont pas un panel, donc. Sur tout le monde, parce que ce panel, en fait, il est divisé en deux parties. Hein, une personne 504, qui est représentative de la population de 15 à 18 ans, et une autre, par contre, de 15 ans et plus.
J'ai pas compris ce que tu voulais dire.
Sur les 1001 personnes, oui. Il y avait un suréchantillon de 504 personnes, oui. Représentatives de la population française âgée de 15 ans. À 18
d'accord,
ans.
D'accord.
Voilà, donc c'est un tout petit peu plus important. Oui. Mais voilà, et donc il y a beaucoup de choses qui disent, grâce à ces 504 personnes, oui. Représentatives des 15-18 ans.
Oui.
Voilà, alors que, donc c'est sur un échantillon, alors que les chiffres de l'OFDT, entre autres, ils s'appuient sur l'étude d'escapade qui est faite lors des 3 jours. Et qui parle toujours de la consommation. Et il pose la question, non pas la consommation de l'année, mais la consommation à 17 ans. C'est des gens qui ont 18 ans ou plus.
Oui, pour Escapade, hein, c'est le questionnaire pour les jeunes qui font les 3 jours à l'armée. Voilà,
tout à fait. Voilà, et donc avec ça, ils arrivent à faire des statistiques un peu plus globales. Surtout, c'est fait sur toute la population et c'est souvent un petit peu plus juste. Et donc, contrairement à ce qu'ils affirment sur ces 15-18 ans qui ne seraient que 4, même pas que 3% à fumer, c'était combien qu'ils nous disent ?
Oui.
Je reviens au texte. 4%. Voilà, 4% à s'adonner quotidiennement du cannabis. Là-dessus qu'ils disent. C'est le chiffre qu'ils ont trouvé. Alors que quand même, l'enquête Escapade, qui est régulière et donc faite sur tous les adolescents de 17 ans,
d'une génération,
ou plus, ou toute une génération, parle de 700 000.
Et en pourcent ?
Et en pourcent, pardon, je l'ai ici, ça fait 46%. 700 000, oui, 46%. 48% même en 2014, puisque c'est les derniers chiffres.
48% des jeunes qui répondent au questionnaire, oui, j'ai déjà fumé du cannabis.
Oui, non, 48% c'est l'expérimentation du cannabis, pardon.
Chez les jeunes.
Chez les jeunes, voilà. Ça c'est l'expérimentation qui est 48%.
Et l'autre c'est l'usage régulier.
Oui.
Donc c'est pas tout à fait pareil, quoi.
Par contre, là, je l'ai en pourcentage, pardon. Donc on est à 9% en 2014.
Avec l'OFDT, tu veux dire?
Avec la source Escapade.
Voilà. De l'OFDT.
9% ont expérimenté.
Ont expérimenté ou fument quotidiennement?
Ont fumé quotidiennement. D'accord. L'usage régulier.
9%.
Ah, l'usage régulier, non, c'est 1,4. Donc on est en dessous. On est à 4,5%, si c'est ça.
Donc c'est à peu près pareil.
C'est à peu près pareil, voilà. Tout à fait. Mais voilà, donc là, on parle vraiment du quotidien régulier.
Oui, oui, oui.
Donc là, c'est 700 000. Après, il y a le régulier, qui est plusieurs fois par mois. Oui. Après, il y a les usagers dans l'année. Oui. On arrive à 4,6 millions.
Oui.
Et après, on a les expérimentateurs, où là, on est à 17 millions, c'est-à-dire presque un tiers de la population.
Oui.
Si on fait le total des usagers, des réguliers et tout ça, on arrive quand même à presque 7 millions de personnes.
Voilà. Tout
donc
en
7,
sachant...
7 millions sur 66 millions, puisque là on est sur... on est sur les 11-75 ans, là.
Oui.
Donc on est à peu près sur les 11-75 ans, à peu près à 10%. 7 millions sur 66 millions.
Voilà, ça se rapproche un peu des estimations... qu'on se fait, nous, un peu à la louche dans notre tête depuis plusieurs années, quoi, en fait.
C'est quand on parle des usagers, donc les usagers, il faut tous... c'est ceux qui utilisent une fois dans l'année, hein. On va pas parler de ceux qui ont expérimenté, qui ont tiré une fois sur une taf sans vraiment...
Sans avaler, et puis en n'étant pas trop sûr, comme Manuel Valls,
voilà,
par exemple.
C'était à lui auquel je faisais référence, il y en avait d'autres qui avaient fumé sans avaler, comme Clinton, si je me souviens bien.
Clinton, Jospin aussi, non, il n'avait pas dit ça.
Je sais plus, bon bref, il y en a quelques-uns qui ont reconnu, heureusement. Mais voilà, donc les expérimentateurs, il y en a forcément quelques-uns à l'Assemblée. même d'ailleurs des réguliers, voire même des quotidiens. Donc voilà, donc au total, hein, donc on a dit 6 millions 7, donc ouais, ça fait à peu près 10% de la population qui l'utilise une fois dans l'année. Donc on est quand même pas mal à fumer.
Ouais, mais donc finalement, au niveau des résultats, le travail qu'a fait la MILDECA se rapproche des... Enfin, les données obtenues par la MILDECA se rapprochent des données obtenues par l'OFDT dans le cadre
Eux, ils mettent en exergue ce qu'ils viennent de découvrir. Hein, donc ce qu'on voit n'est pas trop différent de la réalité avec les 700 000 pour tout le monde. Voilà, donc ils tendraient à dire que dans la réalité... Dans les 18-25 ans, il n'y en a pas plus que ça qui fument quotidiennement.
4%.
4%.
C'est ça.
Voilà.
Là.
Mais quand on compare à ceux qui, dans les très jeunes, boivent quotidiennement, on n'est pas non plus, voire même des réguliers, on est à 12% seulement, contre 9%, hein, toujours selon l'étude Escapade. Et là, c'est juste, donc on voit que c'est pas aussi élevé que ça dans la population. Après, ça va beaucoup plus quand on va dans les expérimentaux, dans ceux qui testent, quoi. Voilà, c'est comme les jeunes boivent plutôt le week-end et pas tous les jours, surtout les mineurs. Même si ils s'alcoolisent trop fort, etc., et que c'est aussi mauvais pour leur cerveau quand on est mineur de prendre une substance, qu'est-ce qu'elle soit. Voilà, mais ça c'était juste pour le rappeler. Donc 4% à s'adonner quotidiennement, c'est ça. Mais par contre, après elle dit, la plupart des Français estiment que les jeunes donc de moins de 25 ans fument. 96 pensent qu'ils sont 1 sur 10 à fumer tous les jours, alors que là ils sont que 4,5%. Hein, ça fait bon. Et ils sont qu'un sur 20, hein, voilà. Et en moyenne, ils estiment que c'est le cas d'un jeune sur 3. Donc ils pensent qu'un jeune sur 3, la moitié des jeunes, des 43% des Français pensent qu'un jeune sur 3 fume quotidiennement. Alors que non, ils fument que, sans doute plus que la population générale, mais comme pour l'alcool, quoi, ils expérimentent. Ils expérimentent plutôt en week-end pour cette... voilà. Donc il n'y a rien vraiment d'étonnant, mais en tout cas ils en font, ils disent il faut arrêter de dire que tout le monde, que tous les jeunes fument tout le temps, ou que tout le monde fume tout le temps, ce qui n'est pas vrai.
Ouais,
mais
ouais,
si
ouais.
C'est vrai, on l'a vu, il y a 10% des gens qui fument une fois de temps en temps, et il y en a qui fument une fois tous les 10 ans quand ils tombent dessus.
Oui, mais bon, après je trouve que c'est je trouve que c'est dire aussi, oui, on sait, tous les jeunes fument, c'est aussi stigmatiser la jeunesse. Voilà. Et que ce que dit Jourdain Méninger, qui n'est pas faux, c'est le dit, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne fument pas ou n'ont jamais expérimenté le cannabis.
Tout à fait.
Voilà. Bah oui, mais c'est important aussi.
Oui, mais voilà, pour elle, quand on dit...
C'est juste exact. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a quelques jeunes qui n'ont jamais bu.
Bah quelques, oui, il y en a beaucoup aussi, enfin...
Ouais, il y en a un peu plus qui ont bu que fumé.
Non, mais expérimenter, c'est une chose. Et il ne faut pas, écarter les jeunes qui ont expérimenté. En même temps, il ne faut pas non plus amalgamer les expérimentateurs à des consommateurs réguliers. Mmh. Voilà, c'est tout. Hein. On a tous expérimenté des tas de choses quand on était jeunes. Ça ne fait pas forcément de nous des ceci, des cela... La jeunesse, c'est aussi un âge où on essaye des trucs. Et on prend des risques, on peut chercher le danger. Enfin bon, voilà, c'est... Et ça ne fait pas pourtant de tous ces jeunes des futurs utilisateurs réguliers d'alcool, de cannabis ou de quoi que ce soit. Quoi. Donc bon, c'est pas inintéressant non plus. Et puis ben, finalement, ce qu'on voit, c'est que quand même les résultats donc, de la MILDK, j'insiste un peu, se rapprochent des résultats de l'OFDT.
Oui, oui, tout à fait.
Et donc, finalement, ça veut dire qu'on a quand même peut-être affaire à des résultats relativement fiables, même
tout
si je pense quand même que le cannabis étant un produit interdit et sa consommation pouvant, on l'a vu tout à l'heure, emmener ceux qui le pratiquent en prison, je pense quand même qu'on est un peu dans la sous-estimation de la réalité. Même si ces résultats et ce travail...
Il parle des fumeurs quotidiens.
Oui.
C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, pour les fumeurs réguliers ou expérimentateurs, il y en a beaucoup plus chez les jeunes, puisque chez les jeunes, c'est un sur deux quasiment qui expérimentent et qui testent à ces moments-là.
Oui.
C'est les années de test, alors qu'après, on arrête. Quoi. On en a connu beaucoup qui ont arrêté avec l'âge ou pas.
Oui. Quoi d'autre dans ces articles
toujours, alors pourquoi il ne faut pas laisser penser que tout le monde fume hein, parce que, il ne faut pas laisser penser à tout le monde que tout le monde fume, quoi. Ouais, tu comprends ce que je veux dire. Parce que bon, pour Madame Danielle Jourdain Méninger, c'est les laisser penser que ce n'est pas grave. Et donc il faut faire attention et... aussi, il faut lutter contre ce phénomène de pression et surtout les phénomènes de groupe chez les jeunes. Quoi. Il faut faire gaffe et tout, c'est dangereux. Et tout ça. Voilà. Sinon, à la suite de tous ces pourcentages, dans 20 minutes, il y a deux psychiatres qui parlent, c'est ça, non?
Ah,
il y avait d'autres choses à dire sur ce que tu racontais.
Non, je te laisse avec les psychiatres.
Voilà, donc c'est pareil. Hein. Dans le sondage, voilà, c'est très grave, quoi. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'un quart des Français pensent que les effets sur le cerveau s'arrêtent juste après avoir arrêté de fumer. Une aberration pour les psychiatres. Donc voilà. Alors c'est une vulnérabilité exacerbée de l'adolescence. Donc ça, c'est Étienne Hirsch qui le dit, donc il y a un processus...
C'est un neurobiologiste. Hein,
voilà, qui parle de comment se passe la maturation cérébrale dans la vie. Donc, je ne sais pas si tu veux partir dans le détail.
Ouais, j'aime bien ce qu'il explique hein, quand même. Il parle du cortex préfrontal hein, qui permet la prise de décision, l'adaptation du comportement à une situation. Et c'est cette zone-là qui serait particulièrement concernée lorsqu'on est un jeune... au cerveau qui se développe. Hein. Alors il nous dit que dans les heures qui suivent l'usage du cannabis, les troubles observés concernent pêle-mêle, deux points, l'attention, le temps de réaction, la mémoire de travail et les fonctions exécutives. Il existerait aussi une corrélation entre l'usage et plusieurs passages à l'acte, tentative de suicide, boulimie, comportement sexuel à risque.
Donc là, il y a quand
selon
même...
plusieurs études, lesquelles voilà. On ne sait pas.
Par contre, il existerait. Hein, donc,
c'est au conditionnel. Ouais.
Il est bien au conditionnel, on le voit. Une corrélation, sans doute, surtout si elle est accompagnée d'alcool. Et là, je pense que je commence à être d'accord avec lui sur l'ensemble des choses dont il parle après.
Ouais, mais pas trop, moi. Moyennement.
Non, mais s'il parle que de cannabis, non. S'il parle cannabis et alcool,
ouais.
Si on mélange tout ça ensemble et à forte dose, on arrive à avoir cette corrélation, surtout par rapport au suicide, par rapport à la boulimie, ou la troisième qui disait les comportements sexuels à risque, voilà. Mais bon, bien que ça soit aussi des choses qui fassent partie de l'adolescence.
Ouais, je trouve que là, c'est, par contre, c'est un discours, je dirais, psychiatrique assez classique, et qui n'est pas forcément révélateur et ni représentatif des fumeurs de cannabis, quoi. Alors, ces gens-là qui se retrouvent, ces jeunes-là qui se retrouvent dans ces situations, c'est peut-être représentatif de certains jeunes qui peuvent avoir des problèmes. Je suis pas sûr que ce soit vraiment en lien avec le cannabis, quoi. Ça, les psys font toujours souvent ce raccourci.
C'est pour ça que j'apprécie son conditionnel.
Oui, c'est vrai.
Si,
ouais.
Voilà, on va pas s'étendre non plus là-dessus.
Allez, ouais, t'as raison.
Il rappelle quand même une chose, et c'est important, hein, donc tous ces troubles dont il vient de parler, ça peut persister, y compris après ce sevrage, si la consommation a commencé avant 15 ans. Donc c'est là qu'il faut bien dire, c'est vrai que
c'est ça
commencer très rappeler. Jeune à l'adolescence et fumer tous les jours à l'adolescence et après, voilà, c'est pas bon. Là, ça reste ad vitam. C'est comme d'ailleurs boire tous les jours dès l'adolescence, idem. Hein.
En fait, c'est ça qu'on...
Même cause, même combat. Hein.
C'est ça qu'il faut rappeler et qu'on rappelle d'ailleurs assez souvent. Consommer des substances psychotropes lorsqu'on est jeune et qu'on est en pleine maturation, développement, notamment au niveau du cerveau, ben, c'est très mauvais en fait.
Voilà, c'est pas bon du tout.
C'est vraiment pas bon.
Surtout à forte dose.
Voilà.
Voilà, donc lui c'était Étienne Hirsch. Il y avait une autre, c'est qui, Marie-Odile Krebs, donc elle est plus sur les troubles anxieux, de l'humeur et la schizophrénie. Qu'est-ce qu'elle raconte? Les mésusages, c'est-à-dire l'abus et la dépendance, s'observent dans la période charnière 15-25 ans. Or, leur problème, c'est que c'est à cet âge-là que débutent les principaux troubles psychiatriques de l'adulte, dont les troubles dont on vient de parler, hein, anxieux, de l'humeur et la schizophrénie. Et pour elle, lorsque la dépendance ou l'abus sont présents à 18 ans, on voit un effet sur le fonctionnement intellectuel global à l'âge adulte. Et chez ceux qui ne consomment plus, même chez ceux qui ne consomment plus de cannabis, donc elle a l'air de dire.
Quand on a fumé ou pris des substances jeunes, voire très jeunes, même après l'arrêt, ça a quand même laissé des séquelles sur le cerveau, quoi. Mm-hmm. Si je comprends bien.
Voilà.
Voilà. C'est tout ? Musique ? Ou autre chose ?
Musique.
Voilà. Eh ben, allez, musique.
Ouais, musique.
Allez, musiquons. À tout de suite.
Ah ben, c'est reparti avec Big Ups du punk rock.
j'espère que vous êtes toujours éveillés là, avec ça, après ça. On peut nous rappeler le titre du... le nom du groupe? Parce que...
Big Ups.
Big Ups. Voilà. Merci. Eh bien,
on va finir sur la... Ouais, on va commencer par la Suisse, alors on ira peut-être jusqu'aux États-Unis.
Alors la Suisse dans 20 minutes, et puis letemps.ch, y a des villes où ils veulent réguler le cannabis de manière locale, mettre en place un système de distribution voilà, dans certaines villes. Alors on sait que c'est une idée qui fait son chemin depuis à peu près 2 ans, hein, parce qu'on en parle assez régulièrement.
Oui, oui, et c'est pas fait par des politiques, c'est fait par des universitaires. Hein. C'est aussi assez marrant de voir qui prend le dossier en main en Suisse. Et donc, ils se réunissent un petit peu pour faire le point de leurs idées, du débat. Ils en sont à la deuxième mouture d'un texte, a priori... pour accompagner, en plus, c'est la consommation des jeunes en rupture et de la consommation en général. Donc, la première mouture et la mouture principale reste faite pour les adultes. Hein. Donc, ça serait fait, une diffusion qui serait faite via des associations, par dose de 10 grammes du cannabis, de l'herbe cannabis produite en Suisse. Hein. On va pas acheter ça à l'étranger, hein. Donc voilà, un truc suisse-suisse, au moins ça fait des emplois suisses.
Bah si, oui, s'ils vont jusque-là, oui.
Et évidemment, c'est beaucoup plus suivable, hein. Et puis comme le dit très bien notre pneumologue, l'herbe c'est moins mauvais que le hashish.
Voilà. Bah si, elle n'est pas mélangée avec du tabac.
Surtout si on la fume pure, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et je rajouterais surtout, pour lui faire plaisir, surtout si on la vaporise.
Oui.
Voilà, donc 10 grammes, on peut acheter jusqu'à 10 grammes par jour, et que de l'herbe. Alors, par contre, les gens doivent aller chez eux et allumer leur joint chez eux. Il faut pas, d'ailleurs, c'est interdit de le fumer avant de prendre le volant. On le rappelle, et c'est prévu dans le
normal d'ailleurs.
Hein. Ce qui n'est pas normal, surtout si on fume pas souvent et qu'on tombe sur un herbe
de qualité.
De qualité. Ouais.
En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre en place des cannabis social club.
Non, justement, c'est pas des cannabis social club.
Explique-nous alors.
Parce que
on a l'impression, mais non.
Dans
alors.
Les cannabis social club, on peut fumer sur place.
Et là, comme tu dis, il faudra rentrer chez soi.
Voilà, on ne fait qu'acheter
sa cigarette.
Voilà, il y a certains coffee shops qui sont comme ça en Hollande, si je ne m'abuse, où tu fumes pas, oui. tu peux, voilà, c'est plus un hall de gare, t'achètes.
Tu rentres chez toi. Oui. Ouais.
Voilà, ou une banque, tu vois, t'arrives, t'as une banquette ou deux, et puis t'as des gens qui sont fermés et tout ça. C'est pas tous des coffee shops avec bar et tout ça.
Enfin là, c'est quand même un peu des clubs de cannabis, mais où on peut pas fumer sur place. Mais bon, c'est quand même un peu ça, quoi.
Ouais.
Voilà. Bah, ils prévoient de créer des associations réunissant entre 300 et 1000 consommateurs sur une base volontaire. Alors, ils nous disent que ça vise des personnes ayant quand même un usage problématique du cannabis, d'autres souffrant de pathologies, qui l'utilisent déjà en guise d'automédication, mais aussi des consommateurs récréatifs. Voilà. Donc,
Et dans certains cas, ils pensent même, ils travaillent même aussi pour justement, quand il y a des jeunes qui ont déjà un usage problématique, de voir comment on pourra leur donner sur ordonnance, ou d'une façon ou d'une autre.
Voilà. Bon, mais alors, des jeunes ayant déjà connu un peu la galère, la précarité, voilà, c'est pas prévu pour n'importe qui.
Voilà, ça reste interdit pour les mineurs, ça il faut le rappeler, mais ils feraient quand même des exceptions, ils ne sont pas aussi... ils tiennent compte du chemin de vie de chacun avant de choisir des solutions.
Ouais. Alors le projet, enfin l'idée quand même à la base, beaucoup hein, pour tout ça, c'est aussi quand même pour encadrer, mettre en place un système un peu plus clair, hein, un peu plus légal, quoi, et l'objectif c'est aussi quand même de lutter contre le marché noir, quoi. Ouais. Voilà. Bah oui, parce que ça marche bien en général. Ce système plus clair de pseudo-légalisation ou de plus grand encadrement, ça permet de lutter contre le marché noir d'éventuels réseaux criminels. Voilà. Alors, juste pour terminer, je vais un peu plus loin dans l'article. Parce qu'en fait, on nous parle de prochaine étape plus délicate qui se déroulera devant les politiques. Parce que là, c'est, comme tu disais, un projet qui est plus ou moins porté par des citoyens, mais aussi des universitaires. Mais bon, à un moment, il faudra bien se retrouver devant les politiques, quoi, avec, avec tout ça. L'idée, c'est quand même aussi de soumettre le projet au Conseil d'État genevois, au mois d'avril. Et on nous parle à la fin de l'article de la session spéciale de l'Assemblée Générale de l'ONU sur les drogues, qui se tiendra à New York, je crois. C'est l'UNGAS, donc, dont on vous reparlera, parce qu'il y a quelqu'un du cirque qui va aller à l'UNGAS.
Tout à fait, j'allais faire justement... voilà, parce qu'il y a deux choses qui vont arriver. J'allais justement faire un petit point, parce que voilà, tout à l'heure, je suis passé un petit peu, je regardais ce qui se passait, et je suis tombé justement sur les pro-cannabis qui veulent aussi y aller. Alors, eux, ils visent aussi un autre événement. Nous, donc, l'UNGAS, c'est à New York, c'est en avril, vers fin avril. Et l'autre, c'est à Vienne, en Autriche, c'est en mars. En fait, il y a l'un après l'autre. L'un, c'est la réunion régulière où les États membres, que les États de l'ONU, discutent et font le point sur le cannabis, l'évolution et tout ça, et l'évolution des lois. Donc, ils avaient pris des projets à 5-6 ans, il y a une dizaine d'années, où ils voulaient éradiquer le cannabis, la coca et l'opium... de la planète, ils se sont rendus compte de leur échec, et de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que cette loi prohibitionniste à tout prix sur les produits est absurde et qu'il faut revenir dessus. Donc ils vont en discuter à Vienne, sans doute, puisque là ça s'est remis un peu en cause, et ils en rediscutent surtout grâce aux pays sud-américains. Ils en rediscutent à l'ONU en session plénière, donc vraiment, non pas avec des sous-ministres, mais vraiment avec les chefs d'État. Et là, ils vont sans doute repenser à se dire, bon là, stop, on arrête avec la répression à tout craint, on a vu que ça sert à rien, on part sur d'autres voies et on réfléchit autrement. Voilà, est-ce que je suis utopique ou pas, mais peut-être que ça arrive cette année.
Non, mais là, il faut... Donc là il va utopie, falloir... c'est réaliste, hein, de toute façon, quand on voit ce qui se passe en Uruguay, au Colorado, voilà, en Alaska, en Oregon, enfin bref.
Les essais montrent que voilà, c'est pas pire, au contraire.
Ah ben non, oui.
Voilà, de toute manière, il y a un petit nombre, un petit pourcentage, qui va de 3 à 7% d'utilisateurs réguliers à une fois par an, donc c'est pas tout le monde, mais c'est pas mal de monde, voire jusqu'à 10%, on a fait le calcul tout à l'heure, hein, on arrivait à plus de 6 millions qui avaient fumé une fois dans l'année. Donc voilà, l'occasion, hop, les mecs, ils tirent une petite taf, voilà, pourquoi pas.
Oui, bon, donc voilà
c'est
un peu...
C'est ça, donc voilà, c'est le projet avance, et donc ben, il faut arrêter d'emmerder ce 10%, surtout pour les fumeurs de cannabis qui causent pas trop de problèmes, même quand, puisque quand même, c'est pas des produits addictifs. Alors c'est vrai, pour la coca, pour l'opium, il va falloir peut-être y réfléchir autrement, ou plutôt pour le pavot, il va falloir y réfléchir autrement, voir ce qu'on légalise, comment, pourquoi pas ne légaliser que l'herbe et interdire d'autres formes de consommation que la vaporisation. Bon, non, je plaisante, hein. J'espère que vous l'avez bien compris.
Donc voilà pour la Suisse.
Voilà pour la Suisse.
Il
voilà,
reste deux minutes.
Pour la Suisse, vous voulez parler des États-Unis ?
Vite fait. Vite fait. Hein, c'est pas nécessaire qu'on s'attarde beaucoup dessus. Mais dans Rollingstone.fr, un article sur Bernie Sanders, le candidat de la jeunesse américaine, que je vous invite à lire, qui est assez intéressant. Bernie Sanders, c'est vraiment le candidat un peu iconoclaste pendant les primaires démocrates, aux États-Unis. Il est arrivé devant Hillary Clinton dans le New Hampshire la semaine dernière. Et lui, il est très clair sur le cannabis. Il l'a dit à plusieurs reprises, faut en finir avec cette prohibition du cannabis, il y en a marre, on va légaliser. Enfin, alors lui, il est clair. Hein. La mère Clinton... On n'entend pas du tout parler du sujet, ou très peu. Obama a dit qu'il ne ferait rien cette année en 2016. Il ne prendrait pas de décision sur le cannabis. Donc, voilà. Bernie Sanders, en tout cas, il est populaire auprès des jeunes aussi. Et pour le coup, ça serait, je dirais, depuis Roosevelt, le premier, s'il est élu président, à être un peu socialiste. Je ne sais pas comment dire. sais pas s'il y a vraiment des socialistes aux États-Unis. Je sais pas si Sanders l'est lui aussi, mais en tout cas, il... bon, c'est qu'une campagne, hein, et il n'est pas élu. On verra ce qu'il fera s'il est élu après, hein, c'est pas gagné. Mais en tout cas, grand pourfendeur du milieu financier des inégalités qui se creusent aux États-Unis. Le socialiste Sanders, je cite l'article de Rolling Stone, hein, dénonce un système politique manipulé par Wall Street et les lobbies. Voilà, donc on verra un peu ce qui se passe. Et puis il y avait un autre article dans Le Monde sur les 50 prisons d'un petit dealer qui font débat en Amérique.
50 prisons, ouais. 55 ans. Hein, un petit dealer, en fait, c'est assez marrant, hein, je vais le faire très vite. C'est Paul Cassel qui s'est vu contraint d'infliger une peine incompressible de 55 années de réclusion.
C'est qui, Paul Cassel?
C'est un juge.
Voilà, donc c'est un juge qui l'a condamné à 55 ans.
Voilà,
de prison.
Donc un père de famille de 24 ans, Weldon Angelos, si vous voulez même voir son nom, un fils d'immigrant grec, bref. En fait, c'était la troisième fois qu'il se faisait prendre, donc récidive, de vente d'herbe.
Right, ouais,
et en plus, ça, il portait une herbe. Donc tout ça,
cumulé,
ouais, c'est 5 plus 25 plus 25, soit 55 ans de prison. Et donc, il a derrière écrit au président de la République pour demander la grâce de cet homme. Pour l'instant, c'est un débat qui agite l'Amérique.
Voilà, un autre article pas mal aussi, un petit article rigolo dans Vanity Fair. Il nous reste une minute, il nous reste zéro minute, mais bon, une minute en plus, allez. Un article dans Vanity Fair qui parle rarement du cannabis, mais là c'était le cas où on nous parle des Américains influents qui ont fait progresser les choses, les mentalités sur le cannabis. Et dans cet article, on nous parle de Bill Gates, qui est un fumeur de cannabis apparemment, même s'il ne l'a jamais reconnu lui, mais il a été balancé par pas mal de ses potes. Et il avait voté oui au référendum sur la légalisation du cannabis dans l'état de Washington en 2012. Voilà, mais il n'y a pas que lui qui est un Américain célèbre et friqué qui milite pour le cannabis comme ça. Bon,
voilà. Tout à fait, on en a parlé beaucoup la semaine dernière sur le cannabis.
Voilà, je préfère Morgan Freeman. Voilà. Mais voilà, c'est la fin de Cannabis Circus.
On a débordé, ciao à tous.
À la semaine prochaine, maintenant c'est Chasseurs de Son. Et bah ouais, la semaine prochaine pour un nouveau Cannabis Circus. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité, au revoir.
Ciao.